Eh bien, me revoilà pour un second épisode du débrief, une semaine à peine après le premier. Bah, tout simplement parce que bah, ça m'a bien plu et j'ai encore pas mal d'autres choses à vous partager. Je vous souhaite donc la bienvenue dans le débrief, la série du podcast socio-gérontologie, dans lequel je rebondis sur l'actualité, la mienne ou celle du secteur. Je vous partage les coulisses de mes projets et surtout, je approfondis ou même j'entame, je commence. Bref, je vous partage mes réflexions et analyses du moment. Le tout sans montage et sans script, parce que c'est plus simple et plus rapide. Et si vous débarquez sur cette chaîne, je m'appelle Antoine Girard et après une première partie de carrière en tant qu'expert en vieux, il y a quelques mois j'ai monté Bistroberta. Bistroberta, c'est une start-up qui veut remettre les pads au cœur du village en y construisant des bistrots, tout simplement. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 21 janvier. Il est tard, presque 22h. Même plus que 22h apparemment. Il fait froid, il pleut, mais c'est une heure à laquelle j'aime beaucoup me promener, donc je vous emmène avec moi. C'est parti, au programme de la semaine, pas mal de choses. Je me suis noté un rapide débrief de l'épisode précédent. Je vous ai noté pas mal de choses pour vous parler de ma semaine. Je n'ai pas d'actualité particulière de secteur sur laquelle rebondir, donc je passe. En revanche, je me suis noté trois réflexions de la semaine, trois choses que j'aurais envie de partager. La première, c'est: est-ce qu'on peut se resocialiser à l'EHPAD? La seconde, c'est une réflexion sur la différence entre l'âge, le parcours de vie et la génération. Et enfin, est-ce que parler d'âge nous condamne à l'âgisme? Voilà le problème de la journée, enfin de la journée, voilà le problème de l'épisode. On est parti. Concernant le premier épisode, j'ai pas reçu beaucoup de retours, quelques-uns. Certains sur la qualité audio, je m'en excuse, mais j'ai fait au mieux avec le matériel que j'ai. Une petite caméra, et puis c'est vrai que sans doute, je vais moi-même m'améliorer au fur et à mesure des épisodes. Deuxième remarque que j'ai prise, qui me travaille un peu plus. J'ai une auditrice qui s'est sentie un petit peu mal à l'aise quand j'ai parlé du poste avec lequel j'étais pas d'accord, qui était intitulé tout thérapeutique, dans le sens où on pouvait y voir une sorte d'attaque vis-à-vis de cet auteur. Évidemment, ce n'est pas le cas, je ne m'attaque qu'aux idées. Les auteurs m'intéressent assez peu, je préfère les idées aux gens. Donc non, clairement pas. Et puis de toute manière, j'ai envie de dire c'est plutôt l'inverse. Si je suis amené un jour à critiquer vos réflexions, vos idées, parce que je ne serais pas d'accord, c'est avant tout que je vous lis, puisque j'ai une politique assez stricte sur LinkedIn. Je me désabonne et je supprime tout un tas de personnes, et je me contente de suivre quelques personnes, une bonne personne, dont j'apprécie le contenu, la plume, etc. Donc si je vous lis, c'est plutôt bon signe. Ceci étant dit, j'aimerais bien avoir plus de retours sur ce que vous en pensez, sur ce que ça vous plaît, ce que ça vous plaît pas, ce que vous avez écouté, pas écouté, bref, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, j'ai pas grand chose à dire, donc on va passer à la suite. Cette semaine, j'ai énormément travaillé sur Bistroberta, évidemment, puisque grosso modo, 75 et 80% de mon temps est dédié à Bistroberta. Le reste du temps, je vous explique ça juste après. Et vraiment, Bistroberta, cette semaine, mais la semaine précédente aussi, c'était le cas, ça met quand même ma patience à rude épreuve. C'est une période assez difficile pour en dire deux mots. On a choisi 8 établissements avec lesquels on souhaite avancer, on souhaite construire les bistrots. Ils sont tous à des niveaux un peu différents de financement. Il y a certaines parties dont les travaux commencent, d'autres le financement est vraiment au niveau zéro ou presque. Et donc il faut faire avancer ces différents projets. Sauf que à la fois on a besoin de financeurs pour faire avancer ces projets, et donc on recherche des financeurs, et à la fois on a besoin des établissements sur un certain nombre d'éléments de leur part pour qu'on puisse constituer des dossiers pour aller voir ces financeurs. Bref, on est bloqué des deux côtés un petit peu. Et c'est cette étape un peu compliquée sur laquelle on est en ce moment, à essayer d'à la fois trouver des financeurs un peu hors cadre. parce que les financeurs traditionnels des EHPAD sont pas forcément ceux qui répondent le plus présent, en tout cas pour l'instant. On espère que ça va changer, mais voilà, à l'heure à laquelle je vous parle, il nous faut trouver des financeurs ailleurs, et d'un autre côté, il faut aussi qu'on avance auprès des EHPAD pour constituer des dossiers qui soient vraiment séduisants, qui aient vraiment le principe, etc. Et encore une fois, si nous, Bis Roberta, on va être l'opérateur de la partie travaux, construction du fonds de commerce, puis ensuite l'opérateur de l'exploitation, on reste quand même dans un système de financement où bah, là, ce qui bloque, c'est la partie financement des travaux. Donc, c'est des investissements que doivent assumer les EHPAD. Et donc, nous, on aide les établissements à aller chercher ces financements qu'ils n'ont pas forcément, ou en tout cas pas totalement. Donc voilà, ça c'est le point un petit peu difficile, vraiment. Moralement, c'est dur, je préfère quand les choses avancent, on se rend plus dynamique, etc. Mais c'est sûr que ça fait partie du job, et donc on fait le travail qui doit être fait, point, ça s'arrête là. Et ce que je vous disais, voilà, c'est ce qui m'occupe 75 à 80% du temps, parce que le reste du temps, c'est des activités plutôt de freelance, puisque on se rémunère pas pour l'instant avec Bis Roberta. Alors je vous rassure, le plan c'est bien sûr qu'un jour on se rémunère, notre modèle économique est construit pour qu'on arrive à se rémunérer pour l'activité qu'on fait. Mais le modèle qu'on a choisi, hein, qui fait que c'est aussi intéressant pour les établissements, c'est qu'il nécessite qu'on ouvre pas mal de bistrots avant de pouvoir vraiment être à l'équilibre. Donc en attendant, on se rémunère pas. Et il faut quand même bien travailler, il faut quand même bien gagner de l'argent. Et donc on a une activité, tous les trois, on a une activité parallèle à notre activité principale qui est Bis Roberta. Et cette activité parallèle, pour moi, c'est une activité de freelancing en écriture. Hein. J'ai écrit pour d'autres, hein, tout simplement, sur plein de manières différentes, mais voilà. Et donc ça prend du temps. Et cette semaine, j'y ai passé pas mal de temps, parce que la mission sur laquelle je suis me prend beaucoup plus de temps que ce que j'aurais aimé, ou même ce que j'avais prévu. Et c'est un défaut dans lequel je tombe systématiquement, ou presque. Je sais que j'ai peu de temps, et donc je prends peu de missions, mais une fois que je suis dedans, j'ai du mal à pas délivrer quelque chose qui me plaît qu'à moitié. Donc je passe beaucoup de temps à faire quelque chose qui me convient pleinement. J'ai une très haute estime du travail que je rends, et j'ai beaucoup de mal à me contenter de quelque chose qui fait juste le taf. Donc forcément, ça prend un peu plus de temps, là où je devrais en prendre moins. Et donc voilà, grosso modo, je suis un jour et demi par semaine sur les 5 jours et demi, 6 jours que je travaille chaque semaine, qui sont dédiés à ça. Donc voilà. Ça reste quand même des missions très intéressantes que je prends. J'aime beaucoup écrire, ça fait partie des choses que j'aime faire. Écrire pour d'autres, qu'on sache ou pas que ce soit moi qui ai écrit, est quand même un exercice très très intéressant. Et on me demande assez régulièrement des conférences, un module de formation. Là c'est un travail un petit peu plus long, un article. Voilà, j'aime ça. Mais c'est vrai que je suis assez exigeant avec moi-même, et j'ai tendance quand même à sous-estimer le temps que ça va me prendre. Et donc des fois il faut délivrer. Et c'est vrai que cette semaine, non seulement j'avais pas mal de choses à faire avec Bis Roberta, mais j'avais également ce gros projet pour livrer en fin de semaine. Et donc ça a pas mal occupé ma semaine. Voilà pour cette semaine. J'avais quelques gros objectifs que j'ai réussi à atteindre quand même. On a refondu complètement à la fois la présentation. J'ai refondu complètement la présentation de Bis Roberta, mais aussi le cahier des charges. Bis Roberta l'a mis à jour. on a mis à jour le cahier des charges Miss Roberta pour 2024, incluant pas mal de rajouts en fait. Il a presque doublé en taille le cahier des charges, mais on a été beaucoup plus précis sur tout un tas de choses. Après tout, c'est normal, hein. On apprend au fur et à mesure. Donc voilà. Voilà pour ma semaine. Quels sont les objectifs de la nouvelle semaine, puisque si je me décide à partir sur un format hebdomadaire, autant parler de ça. J'ai pas mal de choses cette semaine. Mon focus va vraiment être sur construire des super dossiers pour les établissements qu'on accompagne. Ça nécessite encore pas mal d'informations à droite à gauche, et donc il faut aller chercher à la pêche aux informations, relancer pour qu'on ait les devis, relancer pour qu'on ait bien le détail du planning ou les éléments côté établissement. Ça c'est pas mal. Je suis un peu en déplacement, je vais aller voir un et j'espère un deuxième EHPAD sur la route, donc au moins un EHPAD pour un projet qui sortira dans longtemps. Hein, mais qui est quand même très intéressant. Donc j'espère valider cette appel-là et j'espère en passer voir un second sur la route, puisqu'il est sur mon trajet. Et en plus, ce second serait probablement pour une ouverture beaucoup plus tôt, puisque l'espace, a priori, dans lequel on pourrait s'installer, est presque prêt à nous accueillir. Donc ça pourrait aller vite, ça serait intéressant. Je vous en dirai plus. On a un EHPAD qui a entamé des travaux pour ouvrir un bistrot par eux-mêmes et qui se retrouve à bientôt avoir fini leurs travaux, mais avoir eu beaucoup de mal à avancer sur toutes les autres dimensions liées à l'ouverture de l'EHPAD. L'ouverture de l'EHPAD à l'extérieur, enfin les autres dimensions de la création d'un bistrot, disons. Et parmi elles, la formation des équipes, qui est quand même importante, à la fois parce que on amène un nouveau élément qui pourrait probablement être un facteur de risque, donc il faut le gérer pour que justement il ne devienne pas. Et puis il faut aussi être en mesure d'organiser comment tout ça va se passer. On serait sur une gestion par un café associatif dirigé, ou enfin en tout cas animé, par les membres de l'établissement, et donc pareil, une formation par rapport à ça. Et puis après, il y a toutes les démarches administratives, l'ouverture, toutes les démarches pour que commercialement ça fonctionne. Enfin bref, on est sur un projet où l'équipe est ultra motivée, s'est lancée très vite dans les travaux, et félicitations un peu pour leur motivation. Mais maintenant que l'échéance se rapproche, ils se rendent compte qu'en fait il y a encore plein de choses qui vont au-delà de la construction, physique du lieu. Et donc on va voir si on peut les accompagner sur toutes ces dimensions-là. Voilà pour cette question, pour un de ces objectifs. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre comme objectif de la semaine? Ah oui, j'anime un mardi Géronto qui aura lieu jeudi. Donc là, pareil, il faut que je le prépare un petit peu. Et puis j'ai trois modules de formation à préparer cette semaine. Mine de rien, c'est pas rien. Chaque module, disons, fait environ 45 minutes. Il faut que je prépare les plans détaillés de ces modules de formation et les supports. C'est pas rien finalement, mais ça va le faire. Donc voilà, sur le plan boulot, grosse semaine, ça promet d'être intense. On en parle la semaine prochaine. Voilà pour ce que j'avais à vous dire niveau actualité. J'ai pas eu d'actualité du secteur particulièrement intéressant sur lequel j'aurais pu rebondir, donc passons à mes réflexions de la semaine, et j'en ai trois cette semaine. La première, c'est une question assez simple. Peut-on se resocialiser à l'EHPAD? Question que j'ai eu envie de questionner parce que il y a un poste qui est passé d'une quelqu'un que je connais pas d'ailleurs, qui, euh, qui rappelle que en fait, l'EHPAD est aussi un facteur de vie sociale très important pour les personnes âgées. Ce à quoi je répondrai que non. Que d'abord, non, en fait. C'est un peu plus compliqué, ça. Disons que sur le papier, ça pourrait le faire. On met ensemble des vieux qui se sentent seuls. Alors peut-être qu'ils peuvent affronter leur solitude ensemble. En tout cas, sur le papier, c'est ce qu'on pourrait se dire. Dans la réalité, évidemment que ça ne marche pas comme ça. Évidemment que mettre des gens ensemble avec comme seul point commun qu'ils se sentent seuls, bah, ça suffit pas à faire communauté, amitié, à faire lien. Il faut autre chose. Par ailleurs, et si vous travaillez dans ce milieu-là, vous l'avez déjà observé 2000 fois, le lien que les personnes ont envie d'établir, il est beaucoup plus vis-à-vis de l'équipe que vis-à-vis des autres résidents. Évidemment, l'équipe ne peut pas toujours répondre présent à ce lien. C'est pas son rôle, elle n'a pas le temps, elle n'est pas prévue pour. Mais, vraisemblablement, c'est d'abord vis-à-vis des soignants que la personne âgée a envie de créer ce lien. Et puis, des fois, on observe aussi des tentatives des équipes pour essayer de mettre en lien quand ces personnes, ces résidents, on se dit qu'ils pourraient bien s'entendre parce qu'ils ont telle histoire commune ou ils viennent du même endroit, etc. Alors là, oui, en effet, on peut assister à, on va dire, à des tentatives des équipes de créer des liens. En tout cas, que les gens se rencontrent. Et parfois, ça marche. Et super quand ça marche. On est très contents et il faut s'en féliciter, etc. Mais si ça marche, c'est parce que ces équipes ont identifié des points de convergence et qu'elles ont créé un prétexte à la rencontre et au fait qu'ils se découvrent ces liens de sociabilité possibles. Et donc le premier élément qui me vient à l'idée, c'est que l'EHPAD, il n'est pas, pour l'instant, aujourd'hui, il est rarement capable de faire émerger cette sociabilité qui a besoin à la fois de prétexte à la rencontre et du temps ou d'une dynamique qui permet d'avoir le temps de découvrir ce qui pourrait faire affinité. Et encore une fois, mettre des gens ensemble, ça ne suffit pas. Cette idée de prétexte, elle me semble absolument centrale dans le fait que les gens vont venir faire autre chose. Et c'est aussi pour ça que je suis aussi virulent contre l'animation thérapeutique, par exemple. Parce que une animation thérapeutique, en tout cas, qui fait passer le projet thérapeutique avant le fait, le plaisir d'être ensemble, la rencontre, l'échange, la découverte des uns et des autres, et ben, c'est se priver de ce prétexte qui aurait pu permettre l'émergence de socialisation. Donc voilà. Maintenant, c'est la situation actuelle. Et si on crée des bistrots, c'est bien parce qu'on croit qu'on peut améliorer la situation. Et c'est bien parce qu'on croit que, oui, en effet, l'EHPAD doit aussi devenir un lieu de socialisation, au même titre qu'on va répondre à des besoins et à des problématiques d'ordre physiologique. On doit aussi être en mesure de répondre à des problématiques d'ordre relationnel. Et le bistrot peut y contribuer. Alors, loin de moi l'idée que c'est la solution idéale pour tout et pour tous. Néanmoins, je reste persuadé que ça peut être une excellente manière d'y contribuer. Donc voilà. Voilà sur ce premier point, sur cette première réflexion qui était plutôt sur se socialiser à l'EHPAD. Peut-être un point quand même à rajouter. En tout cas, j'y pense parce que c'est quand même très important pour nous, pour la manière on va dire, dont on fait Bistrot Bertha. C'est le côté très famille. Comment vous dire ? Il y a quand même une réalité qui est que les attentes relationnelles qu'on a quand on est vieux, elles sont quand même très 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 largement vis-à-vis des proches. et on peut faire tout ce qu'on veut, mettre toute la bonne volonté qu'on peut, etc. C'est les proches qui restent quand même le sujet de préoccupation premier, et c'est vers eux que les gens veulent, les personnes âgées veulent entretenir des liens. Avec eux que les personnes veulent entretenir des liens. Et donc la famille est quand même le point d'orgue de la vie relationnelle des personnes âgées, en tout cas dans la valeur qu'ils leur accordent. Peut-être qu'en effet, ils voient beaucoup plus leur voisin Gertrude, leur voisine Gertrude, que leur fille. Mais en termes d'importance et de valeur accordée à ces relations, c'est quand même la famille qui reste le point d'orgue. Et si c'est important pour nous, c'est parce que quand on construit un bistro Bertha, on est quand même très attentif à la possibilité quand même de créer une bulle où les familles peuvent se rencontrer un peu dans un cadre différent que de la chambre que la chambre du parent âgé, en fait. C'est vrai que c'est un point très important pour nous. Mais si ça l'est en fait pour nous, c'est surtout parce que ça l'est pour les personnes âgées et que c'est un besoin auquel nous, on est désireux de satisfaire. Voilà sur cette première réflexion autour de peut-on se socialiser en EHPAD. Deuxième réflexion que j'aurais voulu vous partager, elle est autour de la question: qu'est-ce qui influe, qu'est-ce qui impacte notre comportement quand on est vieux? Et en ce moment, on entend beaucoup parler des baby boomers, de cette génération, ou des boomers tout court, ok boomer, etc. Et on entend beaucoup parler de cette génération qui arrive à l'âge de la vieillesse avec une idée que ces vieux seraient différents des autres vieux. Ils seraient différents parce que c'est la génération des baby-boomers, justement. C'est la génération 68. C'est une génération qui a connu une enfance, une adolescence très différente de celle de leurs parents et aussi très différente de celle de leurs enfants. Et donc on a cette vague un peu marketing, enfin des marques qui surfent, disons, sur cette idée de les nouveaux seniors, quoi. Ces boomers, on ne peut pas leur vendre comme les autres, ils vont être différents, ils vont avoir des attentes différentes, etc. Et j'en suis une partie quand même, parce que j'ai passé pas mal de temps à la direction marketing chez Domitis. Et donc il y a quand même cette tentation de dire: ok, comment on s'adresse à cette nouvelle génération, en quoi ils vont être différents, etc. Et sans doute que la génération a un impact sur la vie des gens. Évidemment. Maintenant, est-ce que cet impact est fort? Et est-ce que cet impact est plus fort que d'autres facteurs qu'on peut identifier et analyser? Moi, je vois la génération, je vois toute la vie comme une succession d'embranchements qui nous amènent dans des directions différentes. La génération dans laquelle on est va nous offrir un certain nombre d'embranchements. Des embranchements qui sont différents que ceux auxquels avaient accès les générations précédentes et les générations suivantes. Et donc, de fait, ces embranchements auxquels on a un peu chaque année, en fait, on pourrait prendre l'embranchement 1, l'embranchement 2, l'embranchement 7, en tant qu'individu, ces embranchements qui sont un peu spécifiques à ceux de notre génération, si chaque année on prend un nouvel embranchement, quand on est jeune, finalement, on a pris au cours de sa vie assez peu d'embranchements, et donc on est assez peu différents les uns des autres. Et c'est ce qu'on observe. Les gens avec lesquels vous étiez à l'école primaire, au collège, etc., vous avez assez peu de différences avec eux. Finalement, il y a plein de choses qui vous liaient. Mais au fur et à mesure qu'on a vieilli et qu'on a pris des embranchements de plus en plus différents, enfin potentiellement de plus en plus éloignés, on se retrouve avec des différences très grandes. Et donc la génération, si elle a un impact assez fort au moment de la jeunesse, au fur et à mesure qu'on sort de la jeunesse et que chaque année on fait face à de nouveaux embranchements et de nouveaux embranchements et de nouveaux embranchements, on se retrouve finalement au bout d'un moment avec des parcours de vie fort éloignés les uns des autres. Et donc le deuxième facteur qui moi me semble beaucoup mais beaucoup plus prépondérant que la génération pour expliquer le comportement à la vieillesse, c'est cet effet de parcours de vie. Les choix qu'on a fait tout au long de notre vie conditionnent mais bien plus la manière dont on va vivre vieux. Que ce soit des choix en matière de relations sociales, des choix matrimoniaux, que ce soit être des choix en termes de carrière et donc les revenus et le patrimoine auquel on va avoir accès, que ce soit des choix en termes de vie familiale. Tous ces choix vont nous amener à des parcours de vie fort différents. Et le fait d'avoir ces parcours de vie différents et les conséquences de ces différences est un facteur, à mon sens, bien plus impactant que ne l'est la génération. Maintenant, il y a un troisième facteur qui me semble intéressant à prendre en compte, notamment quand on parle des vieux, c'est le facteur d'âge. Parce que quand on vieillit, il y a comme une forme de réduction des embranchements auxquels on peut prendre au fur et à mesure des années. Et si, jusqu'à maintenant, on pouvait avoir le choix entre 10 embranchements chaque année, au fur et à mesure qu'on vieillit, les embranchements se réduisent. Et c'est un petit peu ça, pour moi, l'effet d'âge. C'est-à-dire qu'en vieillissant, on perd en force, on perd en énergie, on a moins d'opportunités de vie sociale, on perd un certain nombre de rôles sociaux, on se questionne identitairement. Bref, l'ensemble de ces contraintes qu'on vient subir vient réduire un petit peu notre choix. Et donc, les comportements, et ce qui explique les comportements qu'on a quand on est vieux, ils sont aussi largement liés à notre âge. Et donc j'aime bien un peu moi ce résumé de cette manière. La génération, certes, a probablement un impact, mais cet impact est beaucoup moins fort que ne l'est le parcours de vie, et enfin que ne l'est l'âge. Et c'est une réflexion que j'avais partagée il n'y a pas longtemps sur un post, justement à propos des boomers. Et cette idée n'est pas du tout passée. Elle n'est pas du tout passée parce que je suis tombé sur un autre problème, et c'est l'objet de ma troisième réflexion, que j'ai intitulée « Est-ce que parler d'âge nous rend agiste ?» Parce que, évidemment, en disant cela et en expliquant ce qu'étaient les boomers et en expliquant qui ils sont, etc., on m'a assez rapidement traité d'agiste. Et c'était intéressant comme question pour une chose principalement. C'est que j'observe quand même de plus en plus que si on ne partage pas une vision positive de la vieillesse, voire pire, si on ose dire que l'âge a un impact sur qui nous sommes et sur notre comportement, alors tout de suite on se fait un peu traiter d'agiste. Et donc c'est aussi ça l'objet de la troisième réflexion que j'aurais voulu vous partager. Est-ce que parler d'âge nous rend agiste ? Le premier point, c'est donc est-ce que ne pas partager une vision idéalisée fait de nous quelqu'un d'agiste ? Il y a quand même ce point qui est que la vision idéalisée de la vieillesse, il y a des personnes, des créateurs de contenu, qui sont vraiment dans ce travail de donner une bonne image de la vieillesse. Et c'est un travail que je comprends, puisque, en effet, on peut, sans trop de difficultés, plutôt démontrer que la vieillesse a une image assez refoulée dans notre société, assez peu valorisée, et que même les vieux, entre eux, cherchent à mettre à distance tous les marqueurs de la vieillesse, tous les stigmates de la vieillesse. Et donc, il n'y a pas besoin d'être un grand sociologue pour se rendre compte que finalement, il y a une forme de déséquilibre des représentations sociales sur la vieillesse qui sont majoritairement négatives. Et donc, on a des créateurs qui, à l'inverse, cherchent à donner une image positive, comme pour corriger cette représentation Bon, c'est clairement pas mon cas. Moi, je suis pas là pour donner une vision positive ou négative de la vieillesse. Moi, je pars d'un principe très simple. C'est que... il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Sans phare, mais sans non plus tabou. Et oui, la vieillesse, c'est dur, c'est moche. Personne n'a envie d'être vieux. Donner une image de la vieillesse, je pense que ça dessert plus que ça sert notre combat, en tout cas le mien, qui est de dire, peu importe que ça soit joli ou moche, on reste adulte, et on reste adulte jusqu'au bout, et c'est au nom de ça qu'on doit se battre. D'ailleurs, c'est une remarque que j'ai eue il y a justement sur ce post, de quelqu'un qui m'a dit, je comprends pas, je pensais que vous aimiez les vieux. Spoiler, non, j'aime pas particulièrement les vieux. Je suis excédé par le traitement qu'on fait aux vieux. Mais à choisir entre un vieux et un jeune, je préfère passer du temps avec mes enfants. Hein. J'ai pas de doute. J'ai aucun doute là-dessus. Donc j'aime pas particulièrement les vieux, mais je suis quand même excédé par le traitement qu'on fait. Et je décide de me battre parce que c'est quelque chose que je peux faire, c'est quelque chose que je comprends, quelque chose que j'arrive peut-être à exprimer mieux que d'autres. Et donc je le fais. Donc sur ce premier point, est-ce qu'il faut donner une vision idéalisée de la vieillesse ? Je ne le fais pas, mais je comprends ceux qui le font, et je pense qu'ils sont nécessaires. Bon, après, ça m'arrive de les taquiner quelque peu dans les commentaires, mais ça fait partie du jeu, et ils me le rendent bien, donc pas de soucis avec ça. Non, la vraie question derrière ça, c'est est-ce que parler d'âge nous rend agiste ? Et c'est pour ça que je voulais vous en parler après vous avoir parlé de cet effet de génération slash parcours de vie slash âge. Parce que oui, j'en suis intimement persuadé, l'âge a un impact très fort sur qui nous sommes, sur ce que nous faisons, sur la manière dont on vit, sur nos choix au quotidien, tout comme les choix dans des situations exceptionnelles. Et donc, je n'ai aucun problème à expliquer des effets d'âge, à mettre des gens dans des cases en fonction de leur âge, parce que oui, ça a un fort impact. Alors, évidemment, à l'échelle individuelle, à l'échelle d'une personne, passer de 70 ans à 71 ans, ou de 69 à 70, ça ne change absolument rien. Mais à l'échelle d'un groupe, évidemment que les gens en moyenne qui ont 69 ans n'ont pas les mêmes choses que ceux qui en ont 70. Et là, on prend un exemple qui est vraiment ridicule, puisqu'il y a un an d'écart. Mais oui, avoir 70 ans, c'est pas la même chose qu'avoir 80 ans, et c'est pas la même chose qu'avoir 90 ans. C'est d'ailleurs le premier podcast que j'ai publié sur cette chaîne sociogérontologie, il y a peut-être 4 ans de ça, 3 ans et demi. Oui, on peut critiquer le fait que à l'échelle individuelle, l'âge n'est pas déterminant. À l'échelle d'un groupe et du groupe social des vieux, l'âge est très déterminant. Et donc parler d'âge, ça n'a rien à voir en fait d'être âgiste. L'âgisme, c'est une discrimination liée à l'âge. C'est pas constater des effets d'âge. C'est partir du principe que sous prétexte de l'âge, je vais en déduire un certain nombre d'éléments. Et toute chose étant égale par ailleurs, je décide d'accorder plus d'importance à cet élément âge qu'aux autres. Donc voilà. Bref, 33 minutes qu'on parle. C'est pas mal. C'est même trop. Il faudrait réduire, mais j'avais quand même 3 réflexions à vous partager aujourd'hui. Donc je m'arrête là. Je vous souhaite une très bonne semaine. Il y a eu pas mal de vent, donc j'espère que le son est bon, sinon pas de chance. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, si je suis là, si j'arrive à tenir le rythme. Très bonne semaine.